Ce serait l'objet d'une autre thèse. Donc, du coup, je sais plus ce que je dis. Je disais que on m'avait proposé donc de travailler sur la question des régimes juridiques et du régime juridique de l'animal au-delà de son statut. Et en fait, j'y ai vu là, j'espère ne pas m'être trompée, une invitation peut-être à vous parler des différentes théories que j'avais pu exposer au sein de ma thèse, qui traitait de toute manière de cette question-là, et qui traitait de la question des régimes juridiques. Alors pourquoi de la question des régimes juridiques, puisqu'il est vrai qu'il est un peu plus, presque plus classique, de traiter de la question des statuts juridiques, mais le statut juridique a forcément une relation intime avec le régime juridique. Quelle est la différence entre un statut et un régime? Un statut, c'est une forme de qualification. On va qualifier quelque chose dans un statut, et ça va être un bien ou une personne, ça va être un consommateur ou un professionnel, ça va être, etc. Et lorsque l'on aura qualifié l'entité, on va pouvoir y appliquer un régime juridique, c'est-à-dire des règles applicables, et on va pouvoir déterminer quelles sont les règles applicables à ce fameux statut. Donc, par exemple, le droit de la consommation va s'appliquer aux consommateurs, le droit commercial va s'appliquer aux commerçants, le droit des biens va s'appliquer aux choses et le droit des personnes va s'appliquer aux personnes. Donc, jusque-là, on est tous d'accord. Et le principe, du coup, la logique, c'est que le statut doit correspondre au régime, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que si on met un statut avec un régime différent, on voit plus du tout l'intérêt d'un statut. Et en tout cas, ça crée une incohérence juridique qui, à mon sens, est relativement insurmontable. Et en ce qui concerne l'animal, pendant longtemps, la question ne se posait pas totalement parce que l'animal avait un régime juridique totalement cohérent. Il était un bien. Dans le code civil, il était défini comme un meuble, voire un immeuble par destination, donc un bien. Et il disposait d'un régime juridique qui correspondait à cette nature de bien, qui était le régime du droit de propriété, défini à l'article 544 du code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Et donc finalement, on avait un statut juridique cohérent, l'animal était un bien, il était soumis au régime des biens, qui est le droit de propriété, et le droit de propriété prévoyait des prérogatives absolues du propriétaire sur l'animal. Et cela, ça correspondait parfaitement à la manière dont on traitait l'animal, d'une manière juridique, jusque dans les années 60, jusqu'en 1959 plus précisément, puisque en 1959, oula, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? En 1959, on a eu un grand bouleversement qui est lié au décret Michelet. Alors, pour vous expliquer ce qu'est le décret Michelet, il faut que je remonte un petit peu plus en arrière. La première loi de protection animale, elle date de 1850, c'était la loi Gramont. Et cette loi Gramont punissait les mauvais traitements lorsqu'ils étaient exercés publiquement et abusivement. Et donc, en fait, on protégeait l'animal, mais à partir du moment où cette atteinte à l'animal portait atteinte à la moralité publique et au sentiment humain, finalement, de compassion à l'égard de l'animal. Mais si les mauvais traitements étaient exercés dans la sphère privée et finalement, s'il n'y avait pas d'atteinte à la sensibilité humaine à l'égard de l'animal, ils n'étaient pas réprimables. Et finalement, cet état des choses a duré jusqu'en 1959. Et c'est en 1959 qu'un décret, le décret Michelet, est venu supprimer la condition de publicité des mauvais traitements. Et dès qu'on a supprimé la condition des publicités des mauvais traitements, on a totalement changé la nature des choses, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger l'animal dans un but de protection humaine et dans un but de protection de la sensibilité humaine à l'égard de l'animal, on s'est mis à protéger l'animal pour lui-même, éventuellement contre son propriétaire. Et donc, finalement, à partir de ce moment-là, on a pu sanctionner un propriétaire qui maltraitait son animal dans la sphère privée, alors même que ça ne porte atteinte à aucun intérêt humain. Et d'ailleurs, on prévoyait la remise de l'animal à une œuvre de protection animale, et donc on prévoyait la possibilité d'extraire l'animal des griffes de son bourreau. Et donc, finalement, on voit bien qu'on est passé, d'une protection de la moralité publique à une protection de l'animal pour lui-même. Vous allez me dire, oui, alors oui, très bien, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Parce que le droit de propriété, je vous l'ai dit, c'est le droit le plus absolu de l'homme sur la chose. Or, le droit le plus absolu de l'homme sur la chose, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors après, il y a des limites, sous réserve, des lois et des règlements, etc. Mais toutes ces limites, ce sont des limites qui sont portées dans l'intérêt général, ou au moins dans un intérêt d'une personne et d'une personne humaine. Et il n'y a pas d'atteinte au droit de propriété qui puisse être portée dans l'intérêt de la chose sur laquelle le droit de propriété s'applique. Or là, avec cette nouvelle protection de l'animal, ben, finalement, on a un droit de propriété qui s'applique à l'animal, sachant que l'animal est protégé pour lui-même et que donc les limites au droit de propriété sont des limites qui sont prévues dans l'intérêt de l'animal lui-même et donc de la chose objet du droit de propriété elle-même. Ce qui fait qu'il y a là une incohérence juridique et une incohérence juridique majeure. Et les choses ne se sont pas vraiment arrangées depuis, puisque, en effet, il y a eu une évolution du statut juridique de l'animal, qui a été rappelée en introduction, avec la loi du 16 février 2015, qui a ajouté dans le Code civil un nouvel article, l'article 515-14 du Code civil, qui dit « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. » Donc en fait, désormais, on a finalement l'animal qui n'est plus qualifié de bien, qui est qualifié d'être vivant et sensible, et d'ailleurs, il n'est plus soumis au régime des biens, enfin, il n'est plus un bien, il n'est plus soumis au statut juridique de bien, pardon, parce que, de toute façon, on voit bien que la place de l'article dans le Code civil, qui n'est pas dans la distinction des biens, mais qui est bien avant, montre que ce n'est plus un bien. Et par ailleurs, dans tous les articles qui faisaient référence à l'animal en tant que meuble ou immeuble, on a supprimé toute référence à l'animal, ce qui montre bien une volonté du législateur de ne plus qualifier l'animal de bien, et d'ailleurs, il le qualifie d'être vivant et sensible. Et par ailleurs, il vous dit que l'animal est soumis au régime des biens. Or, il n'aurait pas besoin d'être soumis au régime des biens s'il était toujours un bien. Ce qui fait que l'animal n'est plus un bien. Donc son statut juridique, il n'est pas un bien, il est un être vivant et sensible. Mais pourtant, il reste soumis au régime des biens. Et donc là, on a une incohérence majeure parce que désormais, il y avait déjà une incohérence avec l'application du droit de propriété, qui est le droit le plus absolu sur une chose qui est protégée. Et maintenant, on a une incohérence supplémentaire avec un statut d'être vivant et sensible, soumis au régime des biens, et avec un régime des biens qui, pour autant, est un régime des biens, entre guillemets, je vous dirais, tronqué, puisque c'est toujours le droit de propriété limité. Le droit de propriété limité à l'intérêt de la protection animale et à l'intérêt de l'animal pour lui-même. Et donc finalement, on a accentué les incohérences. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais alors finalement, il aurait presque fallu rester comme en 1804 et ne pas protéger l'animal. Non, bien entendu, il faut protéger l'animal. Mais cette protection de l'animal conduit à un certain nombre d'incohérences juridiques et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la question du statut juridique de l'animal est une vraie question qu'il va nous falloir résoudre. Désormais, l'animal, finalement, il est dans un statut intermédiaire, il ne pourra pas rester indéfiniment dans ce statut-là, puisqu'il n'est ni bien ni personne, et il est soumis à un statut juridique, sans être soumis au régime juridique qui va avec, mais appartient à un autre régime juridique, et on voit bien qu'on ne va pas pouvoir perdurer bien longtemps avec de telles incohérences, et qu'à un moment donné, il va falloir mettre des choses un petit peu en cohérence. Alors, du coup, il me semble que pour mettre les choses en cohérence, la première chose, ce serait d'assumer, finalement, la désappropriation de l'animal. Et ce sera l'objet de ma première partie. Il me semble que la désappropriation de l'animal est une nécessité et qu'il va falloir, à un moment donné, réussir à s'émanciper du droit de propriété si on veut pouvoir un jour protéger un peu mieux l'animal. Ça, ce sera l'objet de mon premier point. Et on verra que même une fois qu'on aura... qu'on sera parvenu à la désappropriation de l'animal, on pourra en plus aller même plus loin et éventuellement créer de nouveaux droits sur l'animal encore plus respectueux de celui-ci. Donc voilà. Et pour déjà vous parler de la désappropriation de l'animal, je commencerai déjà par vous parler finalement de son régime juridique actuel. Donc actuellement, on l'a dit, l'article 515-14 nous dit que l'animal est un être vivant et sensible, mais qu'il reste soumis au régime des biens corporels, finalement par le deuxième alinéa. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette modification qui, pour certains, ne changeait pas grand-chose, elle change tout. Elle change tout. Pourquoi ? Parce que déjà, théoriquement, l'animal n'est plus un bien et c'est déjà une grande avancée. Mais vous allez me dire, oui, mais bon, la théorie, c'est bien, mais maintenant, il faut passer à la pratique. Mais elle change tout aussi parce qu'elle a changé également la possibilité de modifier le régime des biens. Puisqu'on aurait pu dire, l'animal n'est pas un bien, c'est un être vivant et sensible, mais il est soumis au droit de propriété, point barre. Or, ce n'est pas ce que dit le texte. Il nous dit, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Et cette fameuse réserve, le sous réserve des lois qui les protègent, elle est extrêmement importante et elle change tout. Alors, elle change tout pourquoi ? Parce que avant la loi du 16 février 2015, 2015. La hiérarchie entre les droits était finalement plus ou moins posée par l'article L214-2 du Code rural, qui nous dit que tout homme a le droit de détenir des animaux et le droit de les utiliser, sous réserve des droits des tiers, des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Et donc, en fait, on disait que les droits de l'homme sur l'animal sont absolus, caractère absolu du droit de propriété. Mais on va relativiser un petit peu quand même, il faut quand même tenir compte des droits des tiers. Les droits des tiers, c'est les droits d'autrui, c'est quand même normal d'en tenir compte. Dans tout droit de propriété, la limite, ça reste toujours les droits des tiers. Et ensuite, on y ajoute également les exigences de sécurité et d'hygiène publique. Oui, la sécurité publique, ça fait partie de l'intérêt général, etc. Et enfin, arrivait, une fois qu'on avait tenu compte de tout ça, on pouvait éventuellement tenir compte, si on avait un petit peu le temps, de la protection de l'animal en tant qu'être vivant et sensible, puisque la référence à la loi du 10 juillet 1976, c'est la référence à l'animal reconnu comme un être sensible dans le code rural. Et donc, finalement, on voit que le principe, c'était le principe du droit de propriété et l'exception, c'était la protection de l'animal. Et la protection de l'animal venait comme autant d'exceptions au principe du caractère absolu du droit de propriété. Désormais, c'est l'inverse. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux vont être soumis au régime des biens. Et finalement, les lois qui viennent protéger les animaux arrivent au premier plan. C'est elles les premières à s'appliquer. Et ce n'est que sous réserve de leur application qu'on appliquera en complément le droit des biens. Alors ça, c'est très important, puisque ça veut dire que désormais, les lois protectrices des animaux priment sur le droit de propriété. Et ça, c'est une vraie nouveauté, et c'est quelque chose qui change tout. L'autre chose très intéressante, c'est que finalement, le droit de propriété va venir s'appliquer de manière subsidiaire. Et donc, ça veut dire quoi, de manière subsidiaire? Ça veut dire tout simplement que dès lors qu'il y aura une règle propre pour l'animal et qu'il y aura une règle spéciale, il n'y aura pas lieu de retomber dans le droit commun et d'aller chercher le droit des biens. Et donc finalement, si on multiplie les règles propres et si on multiplie autant de règles spéciales pour l'animal, l'application du droit des biens et donc l'application du droit de propriété va se réduire à peau de chagrin jusqu'à totalement disparaître. Et le jour où ça disparaîtra totalement, on pourra enfin considérer qu'il y a un droit applicable à l'animal qui soit spécial et autonome et qu'on n'a plus besoin de la propriété. Et ce sera à ce moment-là que l'animal pourra réellement aboutir à sa désappropriation et qu'on pourra réellement reconsidérer les choses autrement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et la Cour de cassation a commencé à appliquer ces dispositions-là, par exemple dans un arrêt du 9 décembre 2015, l'arrêt Delgado, où dans cette affaire, c'était un chien qui avait été vendu par une éleveuse professionnelle à une dame qui voulait un chien comme animal de compagnie. Le chien était atteint d'une maladie des yeux qui le rendait quasiment aveugle. Et du coup, la dame, consommatrice, selon le code de consommation, avait demandé à bénéficier de la garantie de conformité. Et dans le cas de la garantie de conformité, elle pouvait demander soit la réparation de l'animal, soit son remplacement. Et du coup, c'est dans ce cas-là, l'option vient au consommateur lésé. Et elle avait demandé la réparation parce qu'elle voulait que l'éleveuse paye les différentes interventions chirurgicales nécessaires pour que son chien retrouve la vue. Et elle s'était attachée à son chien et bien sûr, elle voulait le conserver. Elle voulait certainement pas qu'on le remplace par un autre. Et dans ce cas-là, on doit respecter le choix du consommateur sous la limite que l'option choisie ne soit pas trop onéreuse. Et l'éleveuse avait fait remarquer que c'était beaucoup trop plus onéreux que de simplement remplacer, puisque trouver en tant qu'éleveuse, prendre un nouveau chiot et confier un nouveau chiot à la cliente coûtait bien moins cher que de payer une opération chirurgicale. Et donc elle y avait vu très vite son intérêt. Et donc elle avait dit non, à ce moment-là, je choisis la deuxième option qui est de remplacer l'animal. Et la Cour de cassation a considéré que non, l'animal est un être irremplaçable aux yeux de son maître. C'est un être unique, c'est pas une chose interchangeable. Et dès lors, on doit appliquer une règle dérogatoire à la règle de droit commun pour tenir compte de cette caractéristique d'être vivant et sensible de l'animal irremplaçable aux yeux de son maître. Et donc finalement, on voit que la Cour de cassation commence déjà à considérer que le principe, c'est d'avoir des règles propres pour l'animal et que ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de règles propres et qu'il n'y a pas lieu d'en inventer qu'on pourra appliquer le droit de propriété, qu'on pourra appliquer le droit commun. Et donc, on le voit finalement, cette modification par la loi du 16 février 2015 du statut juridique de l'animal a ouvert la porte à une modification du régime juridique de l'animal, puisque on va pouvoir créer des règles spéciales qui vont réduire autant, d'autant en tout cas, l'application du droit commun et du droit de propriété, ce qui conduira finalement à la désappropriation de l'animal et à sortir de l'incohérence qui consiste à dire que l'animal est n'est pas un bien, mais lui appliquer le droit des biens qui n'est pas adapté à l'animal. Alors après, le problème, c'est que, très bien, on va créer des règles spéciales. 1, 2, 3, 10, 15, 100. Et puis, à un moment donné, on aura tout un corpus juridique. Sachant qu'il en existe déjà beaucoup aujourd'hui des règles spéciales. Vous avez peut-être entendu parler d'un code, du code de l'animal, qui est un code éditorial, qui a visé justement à synthétiser finalement toutes les règles applicables à l'animal dans un seul et même ouvrage. Et ce code de l'animal, il fait plus de 1000 pages, et il y a déjà beaucoup de dispositions propres à l'animal. Et donc finalement, dans ce code de l'animal, on pourrait trouver de quoi créer un droit autonome et spécial de l'animal qui viendrait déroger d'autant au droit de propriété, et on pourrait encore le développer pour sortir finalement de l'application du droit de propriété. Mais le problème, c'est que à un moment donné, il va quand même falloir le nommer. C'est-à-dire que aujourd'hui, le droit de l'animal ou le droit animalier en soi n'existe pas, et même dans le droit animalier c'est l'ensemble des règles qui ont trait à l'animal, mais ça va du droit pénal à du droit civil, à du droit rural, à du droit de l'environnement, ça va un petit peu à de tout. Donc en fait, il faudrait après nommer ce nouveau régime juridique des rapports homme-animal, et donc ce nouveau régime juridique qui n'est pas la propriété, mais qui est un nouveau régime d'organisation des rapports homme-animal. Alors moi, j'avais fait la proposition, mais ça n'engage que moi, hein, je vous l'accorde, de pouvoir nommer ce régime juridique le droit d'absumération. L'absumération, pourquoi ? Parce qu'il était intéressant d'inventer un concept nouveau. Le problème, c'est qu'on essaye toujours, j'ai toujours tendance à considérer qu'on manque parfois un petit peu d'imagination, et du coup, on essaye toujours d'appliquer des concepts existants, et du coup, on essaye toujours de faire rentrer le rond dans le carré. Sauf qu'à un moment donné, le rond est rond, le carré est carré, et si on a un triangle, on invente un triangle. Mais on ne va pas forcément essayer de les faire rentrer dans les formes qu'on connaît déjà. Et il me semble que là, pour l'animal, c'est important de pouvoir avoir un régime qui soit autonome et de ne pas se raccrocher à quelque chose qu'on connaît, justement pour pouvoir réellement s'émanciper et avoir un réel régime spécial et autonome. Et donc, du coup, le droit d'absumération pourrait être entendu comme le droit de jouir et de disposer d'un animal dans le respect de son intérêt, de son bien-être et de sa protection. Du coup, ce serait un droit qui, dès le départ, dès sa définition, prévoirait que il y a des prérogatives du propriétaire ou du maître ou de l'absumérant sur l'animal, mais ces prérogatives, elles sont immédiatement limitées dans l'intérêt de l'animal, et ça nécessiterait de faire une balance des intérêts entre, d'un côté, les intérêts humains, de l'autre, la protection de l'animal, et de faire évoluer les règles de protection toujours au regard de cette balance. Ça, c'est déjà un petit peu le jeu qui est mené aujourd'hui. Il suffirait juste d'officialiser les choses et d'aller plus loin encore dans cette idée-là. Alors après, la balance des intérêts pourrait se faire selon certains critères. Et il ne serait pas compliqué, finalement, de faire cette conciliation des intérêts entre homme et animal selon trois critères, qui sont trois critères simples et que les juristes connaissent déjà. Premier critère, ce serait le critère de l'utilité. C'est-à-dire que pour pouvoir porter atteinte à la protection animale, il faudrait que l'atteinte soit justifiée par l'utilité et par l'utilité pour l'homme. S'il n'est pas utile de porter atteinte à la protection animale, il est bien évident qu'il n'y a pas de raison de le faire. La deuxième critère, ce serait le critère de la nécessité de l'atteinte. La nécessité de l'atteinte, c'est pareil, s'il n'est pas nécessaire, ça viendrait limiter autant les atteintes possibles. Et le troisième critère, ça pourrait être celui de la proportionnalité de l'atteinte au regard du but poursuivi. Utilité, nécessité, proportionnalité, il s'agit là de trois critères qui permettent, de manière très classique en droit, de mettre en œuvre des équilibres et des balances d'intérêts. Par exemple, ces critères sont déjà utilisés. Ils existent déjà, par exemple, en matière d'expérimentation animale, dans la règle des 3 R. La règle des 3 R nous dit que il faut réduire le nombre d'animaux utilisés, remplacer les expérimentations animales lorsque c'est possible, et raffiner les procédures, c'est-à-dire les améliorer en faisant souffrir les animaux le moins possible. Et on est tout à fait dans cette idée-là, réduire et remplacer, ça veut dire que si ce n'est pas utile, on ne doit pas faire d'expérimentation animale, ou en tout cas, on ne doit pas utiliser les animaux si ce n'est pas utile. Et donc, on est tout à fait dans le critère de l'utilité. On est également dans la proportionnalité, puisque finalement, le nombre d'animaux utilisés doit être adapté par rapport à l'objectif poursuivi. Et on ne doit pas en utiliser plus que nécessaire. Si les résultats sont fiables avec 10 animaux, on en utilise 10 et pas 20, et pas 100, et pas 500. Voilà. Et donc ça, ce sont des critères qui existent déjà. La règle de la question de la nécessité également existe déjà en droit. Si vous prenez les infractions pénales animalières, vous avez les atteintes volontaires à la vie d'un animal, on vous dit, dès lors qu'elles sont réalisées sans nécessité, elles constituent des infractions de cinquième classe. Les mauvais traitements ne vont être réprimés que s'ils ont été sans nécessité. Et donc ce critère de la nécessité existe déjà également. Et donc finalement, on a déjà tous les outils pour pouvoir mettre en œuvre ce droit d'absumération sans difficulté. L'intérêt également, ce serait d'avoir un droit qui serait souple et évolutif, c'est-à-dire que il est bien évident que ce droit pourrait évoluer en fonction de la société, en fonction des attentes de la société en termes de protection animale, de la même manière que, par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme évolue en fonction des attentes de la société, finalement, le droit animalier pourrait évoluer de la même manière sans que ça pose difficulté. Et donc, on aurait quelque chose de très évolutif qui permet finalement simplement de retraduire ce qui est déjà l'état de notre droit aujourd'hui avec des concepts qui créeraient une forme de cohérence et une forme finalement d'intelligibilité du droit qui à mon sens serait nécessaire. Alors cette notion de droit d'absumération serait particulièrement adaptée notamment pour les animaux que j'appelle d'utilité économique. Les animaux d'utilité économique c'est tous ceux pour lesquels il y a un intérêt financier. Donc bien entendu tous les animaux d'élevage, mais également les animaux d'expérimentation, puisque l'expérimentation a quand même un intérêt à la fois de recherche, mais financier également, et éventuellement des animaux de travail, par exemple les chevaux dans les centres équestres, les chiens qui travaillent, les chiens d'avalanche, etc. Ça pourrait servir à tous ces animaux d'utilité. Par contre, il me semble que pour les animaux de compagnie qui, eux, n'ont pas ce problème de l'utilité économique, on pourrait même organiser les choses selon d'autres droits qui seraient encore plus protecteurs de l'animal, puisque là, la question de leur exploitation ne se poserait pas, il n'y aurait plus besoin de faire cette fameuse balance des intérêts qui est intéressante dans le droit d'absumération. Et donc là, c'est une deuxième proposition, alors qui va plus loin, hein, mais qui pourrait être dans un second temps encore une voie d'évolution, qui pourrait être l'adoption d'un droit d'adveillance. Alors là encore, c'est un nouveau concept que j'ai inventé, mais bon, après, on peut l'appeler autrement, hein, je suis pas obtus. Et donc, ce droit d'adveillance, ce serait un droit pour les animaux de compagnie. Alors, la particularité des animaux de compagnie, c'est ce que je vous dis, c'est que on n'a pas les mêmes problèmes avec les animaux de compagnie parce qu'on ne les exploite pas économiquement. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on crée des lois plus protectrices des animaux de compagnie, il y a moins de difficultés à les faire adopter puisque vous n'avez pas le lobby des éleveurs, le lobby de la chasse, la FNSEA, etc., qui vient susurrer à l'oreille du législateur qu'il ne faut absolument pas faire ça. Et donc, finalement, c'est plus facile de faire évoluer les choses. Alors, la particularité des animaux de compagnie, donc, c'est leur absence de lucrativité. Et cette absence de lucrativité, elle est prévue dans la définition même de l'animal de compagnie. L'animal de compagnie, il est défini à l'article L214-6 du Code rural comme tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. C'est un animal d'agrément. Il n'est pas là pour rapporter de l'argent. Et donc, il n'y a pas ce rapport financier à l'animal qui complique forcément les choses. Et donc, finalement, on n'aurait pas besoin d'un droit comme le droit d'absumération, qui est le droit de jouir et de disposer de l'animal. On pourrait avoir un droit beaucoup plus souple, qui correspondrait finalement mieux à la vision avec laquelle la plupart des gens considèrent leurs animaux de compagnie. Beaucoup d'études ont montré que pour la plupart des gens, les animaux de compagnie sont des membres de la famille à part entière. Ils font partie du foyer. Alors, ce ne sont pas des enfants, mais ce sont des membres de la famille. Et donc, du coup, finalement, cette notion d'adveillance pourrait correspondre à cette place un peu particulière de l'animal de compagnie au sein des foyers. Et là encore, ça nécessiterait un droit propre adapté au rapport particulier à l'égard de l'animal de compagnie. Alors, pourquoi utiliser une nouvelle notion et pourquoi une notion aussi barbare que l'adveillance? Qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue? Puisque vous allez me dire, bah oui, mais bon, il existe d'autres notions juridiques qu'on pourrait utiliser. Alors, c'est vrai qu'on pourrait utiliser d'autres notions juridiques, notamment la notion de la garde. La garde, vous le savez, elle est utilisée à différentes manières en droit, mais la garde, c'est un pouvoir de fait. C'est un pouvoir de fait, d'usage et de contrôle, mais c'est un pouvoir de fait. Or là, l'intérêt, ce serait de créer un lien de droit, un lien de droit entre le maître et l'animal. Or, ce lien de droit, ben, ça ne peut pas être la garde, puisque la garde ne crée pas le lien de droit. Donc du coup, il me semble qu'il serait plus intéressant d'inventer une notion. Et les notions applicables également aux personnes juridiques me semblent peu adaptées. Par exemple, on a pensé appliquer les mêmes droits que les droits des parents sur leurs enfants, puisque finalement, quand on a un petit animal, on le traite souvent un petit peu comme l'enfant, qu'on va éduquer, qu'on va entretenir, etc. Et finalement, on n'est pas très très loin de l'autorité parentale hein, pour certains. Et donc certains peuvent se dire, ben, pourquoi pas utiliser l'autorité parentale? Le problème, c'est que là encore, ça crée une infantilisation de l'animal qui, à mon avis, n'est pas très adaptée, parce que l'animal n'est pas un enfant, qu'il a des besoins qui ne sont pas les besoins des enfants et que il ne faut pas essayer de lui mettre un costume qui ne lui ira pas, il faut lui tailler un costume sur mesure. Et là, en la matière, par exemple, bah, l'autorité parentale, elle va pas naître de la filiation comme naît l'autorité parentale sur les enfants, et on va pas créer entre l'animal et son maître le fait que l'animal doit être associé aux décisions qui le concernent, comme c'est le cas pour l'enfant. On va pas non plus respecter les relations personnelles de l'animal avec ses ascendants, comme ça pourrait être le cas pour les enfants, et finalement utiliser le droit des enfants pour les animaux, à mon sens, est peu adapté. Par ailleurs, l'application des règles également pour les personnes morales pourrait être mobilisée. Mais là encore, l'animal est un être vivant et sensible, alors que la personne morale est un être plutôt abstrait et peu sensible. Et finalement, là encore, vouloir appliquer des règles qui ne sont pas adaptées, à mon sens, serait fortement déconseillé. Et donc, du coup, on pourrait créer ce droit d'adveillance. Alors, je conclue, puisque je vois bien que j'ai déjà dépassé le temps. Pour créer ce droit d'adveillance, ben, on pourrait finalement organiser ce droit autour de pouvoir et non pas de droit, parce que les droits, ce sont des prérogatives accordées à un individu dans son propre intérêt pour pouvoir jouir d'une chose. Alors que les pouvoirs, ce sont des prérogatives qui permettent à une personne de gouverner une autre personne. Et donc, ces prérogatives en matière de droit d'adveillance, ça pourrait être un droit de diriger et de contrôler la vie de l'animal, qui serait limité par l'obligation de soins et d'entretien de l'animal, et le maître pourrait également être investi de pouvoir de représentation sur l'animal, tant au niveau patrimonial, si on attribue une personnalité animale avec un patrimoine, que juridique. Et j'avance, et je vous remercie.